Bienvenue au projet de balado-diffusion « Ça jase dans le rang ». Je me présente François Potvin, conseiller en développement agricole à la MRC de Maria-Chapdelaine.
Et moi, c'est Mélissa Véro, je suis agricultrice et travailleuse sociale.
Le projet de balado « Ça jase dans le rang » est une initiative de la MRC de Maria-Chapdelaine. Et pour arriver à bien dans cette aventure, nous sommes joints l'entreprise de Mélissa Véro.
La Vraie Nature Service Psychosocial.
Donc, ça jase dans le rang, c'est un moment qu'on prend pour parler, pour se parler. On aborde des sujets vécus par les producteurs et productrices. On essaie de proposer des stratégies, des façons de faire pour avancer, pour surmonter les petites difficultés. Bien évidemment, on n'a pas la solution à tout, mais l'important derrière l'idée de ce balado, c'est vous.
Je peux prendre mon exemple plus personnel avec Daniel. Alors, Daniel, lui, c'est pour un retrait aussi. Fait que, il faut qu'il y ait des démarches un peu de fait, des étapes à suivre aussi pour laisser la place tranquillement à un et à l'autre, de faire les changements un peu de direction, les changements de prise de décision aussi. Là. Fait que la place du cédant, je te dirais qu'elle est indispensable aussi. Si on prend l'exemple justement dans un transfert d'un apparenté, moi, ça fait 4 ans que je suis avec Daniel. Lui, ça fait 35 ans qu'il est sur une entreprise. Fait que les champs, il sait comment ça marche. Les animaux, il sait comment qu'ils... on n'a pas besoin d'y apprendre des choses nécessairement. Fait que je pense que c'est vraiment important de l'avoir encore. Il travaille tous les jours, etc. avec nous autres. C'est un employé inestimable en termes d'expérience.
Bonjour Mélissa.
Hey, bonjour François.
Mélissa, la dernière.
Que ça l'a passé vite, hein?
Mais c'est comme, on va vivre un petit deuil.
Ben, je pense que c'est quand on a un sujet, quand on tient quelque chose qui est intéressant, quelque chose qu'on sent qui apporte une contribution, qui fait avancer une mission, une cible, quelque chose d'important. Puis c'était ce dont on s'était donné comme mission, tu sais, de pouvoir permettre au monde agricole, aux producteurs, productrices qui vont écouter ce balado-là, d'amener des réflexions, oui, poser un regard nouveau sur certains enjeux, surtout des enjeux relationnels, puis de voir comment moi, dans mon quotidien, je peux peut-être des fois sortir d'un sentiment où est-ce que je me sens coincé, je sens que j'avance pas, je suis en stagnation, je suis pris dans un conflit ou dans un malaise. Fait que déjà d'avoir peut-être une petite piste de réflexion en lien avec ça qui va avoir permis peut-être de dénouer certains petits enjeux ou de faire le prochain petit pas, tu sais. C'est une expression que je vais avoir utilisée, oui, souvent pendant le balado, tu sais. C'est quoi le prochain petit pas? Parce qu'il est tellement important, mais je pense qu'on va pouvoir se dire à ce moment-là que ce sera mission accomplie, dans le fond, pour nous deux.
Oui, puis j'aime que tu le rappelles parce que c'était vraiment l'objectif d'emmener les gens à une certaine réflexion. Mm-hmm. Tu l'as bien dit, le prochain petit pas. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, t'sais, j'espère qu'on va rejoindre au moins quelques personnes qui vont avoir amené une certaine réflexion, une certaine introspection. Puis de la question, OK, la prochaine étape, le prochain petit pas, parce que c'est pas besoin d'être une super grande étape, puis OK, le prochain petit pas pour améliorer ma situation, c'est quoi?
Oui, exactement, exactement. Fait que, tu sais, on a tellement des enjeux, plusieurs enjeux dans nos vies au quotidien qui sont normales, que ça soit autant au niveau, bon, on a parlé de la famille, on a parlé du couple, on a parlé de conflits au travail, on a parlé de conflits avec les voisins, on a parlé de différents sujets, juste de comment on fait pour continuer d'avoir de la motivation, comment on fait pour réaliser des choses importantes dans sa vie. C'est comme, des fois, on entend des petites clés, des petits trucs qui vont nous être proposés dans un balado comme celui qu'on va faire. Puis au moment où on l'écoute, c'est le moment où là, ça fait « OK, c'est ça dont j'avais besoin ». Puis là, on a la prochaine étape, hein, en « voici ce que je vais faire ». Fait que, tu sais, si moi, ça va avoir permis ça pour quelques personnes, c'est comme parfait, puis j'ai vraiment bon espoir, parce que juste avec l'effet que ça l'a eu sur toi, François, sur les gens de la production ici, là, avec qui on va avoir travaillé en collaboration, les partages qu'on va avoir eu ensemble, ça va avoir amené ça chez les gens qu'on va avoir participé à l'élaboration. Fait que je me dis, ça, c'est déjà de démontrer l'effet que ça va produire chez nos producteurs qui vont avoir écouté la série, dans le fond, de balado.
Oui, vraiment. Fait qu'on se le rappellera en mot de la fin, mais je suis vraiment content d'avoir réalisé ce projet-là avec toi, Mélissa. Merci beaucoup.
Ben écoute, c'est totalement partagé comme reconnaissance. Puis merci à toi, François, d'avoir pris l'initiative de proposer ces projets-là. Je pense que ça dynamise beaucoup notre secteur aussi.
On essaye. On manque d'organisation, mais on s'entoure de bonnes personnes, puis on réussit. Bon, hé, là, c'est beau, mais là, on en a un à faire quand même aujourd'hui.
Oui.
On parle
oui,
de quoi?
Oui. Écoute, aujourd'hui, on va parler de relève agricole.
OK.
On n'en a pas parlé encore, puis je me disais, on ne peut pas passer une série de 12 balados sans parler de notre relève agricole.
Qui est un sujet assez actuel encore ces temps-ci. Puis qu'il y a tout. C'est pas nouveau. On pense que c'est nouveau parce qu'il y a des problématiques peut-être qui n'étaient pas les mêmes, mais ça a toujours été une question.
Mm-hmm. Mais c'est que c'est tellement important d'en parler parce que la relève, qu'il y en ait plus, qu'il y en ait moins, qu'elle soit différente, que ça ne soit pas la même réalité qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, il y a des défis relationnels qui demeurent les mêmes, qui ne changent pas d'année après année. C'est comment on fait pour pouvoir transférer une entreprise ou continuer de faire maintenir une agriculture à travers les générations. Ouais. Puis là, c'est qu'on est quand même influencé par tous les mouvements mondiaux, les mouvements sociaux aussi, le contexte économique qui va avoir énormément d'impact. Et on est dans des aires où est-ce que le mouvement, tout va plus vite. Ce qu'avant, tu sais, on fait juste regarder au niveau de la technologie, l'impact que ça a, la diffusion d'informations, comment c'est accessible, comment la vitesse va au grand V. Tous ces changements-là sociaux font en sorte que la dynamique évolue vraiment vite. Puis c'est la même chose avec tout notre monde agricole. Donc, notre relève a quand même des défis importants, mais elle a des beaux défis. Mais en même temps, c'est comme, OK, quels sont aussi les défis relationnels qu'il y a à travers tout ça? Oui. Parce que oui, de répondre à toutes, dans le fond, les nouvelles demandes du consommateur, qu'on veut avoir une consommation, consommer des produits plus locaux, on est plus regardant sur le côté environnemental, le bien-être animal, tout ce qui est de carboneux et tout ça. Mais il reste qu'il y a des enjeux qui restent de fond, qui sont comme, OK, comment moi je vais faire pour faire en sorte de transférer cette entreprise-là à mes enfants? Là, je parle pour les 7 ans. Est-ce que l'entreprise va pouvoir survivre à travers tout ça? Comment on va faire si on a des conflits ensemble? Comment on va faire pour s'adapter? Puis la même chose pour la relève. Comment on va faire pour amener des idées nouvelles à une génération qui n'a pas nécessairement les mêmes valeurs de base, qui ont une façon de faire différente, qui ont vécu dans un air où est-ce que la situation socio-économique était différente? Fait que ces enjeux-là, au niveau de la relève agricole, bien, c'est quelque chose qui a tendance à rester. C'est un enjeu de comment on fait pour être capable de venir faire des compromis entre deux générations. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est un petit peu ça la discussion que j'ai le goût de te proposer, François, de voir, bien, de regarder c'est quoi les différentes générations. Tu sais, quand on parle de générations, on parle des boomers, on parle des générations X, Y, Z, bon, c'est quoi ces générations-là? Qu'est-ce qui les différencie entre elles pour qu'on apprenne un peu à mieux se connaître entre nous selon notre positionnement? Puis ensuite de ça, de venir voir, OK, la relève agricole présentement, c'est quoi son portrait? Puis tu sais, j'ai quand même fait mes devoirs, je suis allée recenser là, au niveau du dernier recensement 2021 qui a été fait là, par le ministère des Pêcheries, Agriculture et tout ça du Québec. Puis, tu sais, j'ai quand même ressorti beaucoup de choses vraiment intéressantes. Puis c'est là que je me disais, ah ben, on voit vraiment les tendances avec tout le contexte des générations qui sont influencées selon ce qu'on vit avec la même période qui est vécue, tu sais. Fait que, voilà.
Super intéressant.
C'est ce que je te propose. Puis à travers ça, ben, tu sais, on va donner des petites stratégies aussi sur, ben, tu sais, comment on peut faire justement pour... être une relève intéressante, démontrer à nos cédants qu'on est sérieux, qu'on est une relève intéressante. Même chose comme cédant ou comme père, parent de famille, mère aussi. Comment on fait pour faire en sorte, si on rêve un jour d'avoir une relève, ben ça commence dès le jeune âge pour voir qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants. Parce qu'il y a des caractéristiques quand même assez précises au niveau du monde entrepreneurial. Tu sais, oui, tu veux transmettre l'amour de l'agriculture, mais l'amour de l'agriculture maintenant ne suffit plus pour être capable de gérer des entreprises qui sont très complexes avec beaucoup de normes, de règles à respecter aussi.
Super. Hey, on commence tout de suite. J'ai hâte de t'entendre parler des générations.
Bien, tu sais, les générations, hein, je ne t'apprendrai pas là, que les générations, là, la première génération que je vais te parler, ça va être les boomers, dans le fond.
Les fameux baby boomers.
Ouais,
c'est
fameux
nos parents, ça. Hein?
Bien, c'est nos parents. C'est nos parents, nous autres, parce que nous, hein? on est dans la quarantaine, tu sais. Mais c'est ça. C'est comme ces parents-là commencent à prendre plus de portes de sortie.
Oui.
Mais il ne faut pas oublier que la définition d'une relève agricole, OK? Si je regarde au terme du recensement, ce qui est recensé en termes de relève agricole officielle, c'est quand une personne va détenir au moins 1 % d'une entreprise pour dans le monde agricole, au niveau des statistiques, OK? Oui. Puis c'est des gens de moins de 40 ans, de moins de 40 ans qui détiennent au moins 1 % dans le fond d'actifs d'une entreprise agricole.
Fait qu'on ne peut plus être de la relève, nous autres.
Bien, écoute, on a passé go, hein? C'est comme, ben, moi, j'en ai quand même bien profité, par exemple, là, mais... Malgré que toi, tu n'es pas actionnaire de l'entreprise, hein, avec ta conjointe.
Je n'ai jamais été relève agricole et je ne suis pas. J'aurais passé mon tour.
Ben écoute, il est maintenant trop tard, François. Mais voilà. Fait que, mais tout ça, ça va être plus pour les stats. Mais en même temps, les baby boomers, c'est parce que là, nous, on rit bien parce que là, on se dit, bon, tu sais, c'est nos parents à nous. Mais il y a encore des gens qui font partie de la relève agricole qui sont de plus que 35 ans et que leurs parents, là, sont des baby boomers aussi, là. Puis, tu sais, on se rend compte que même dépassé 40 ans, il demeure quand même des enjeux de transfert de connaissances, de prendre sa place, parce que c'est pas parce qu'on a 40 ans puis que les parents en ont 60, 70 qui vont être retirés de l'entreprise puis qui vont avoir, dans le fond, cédé toutes les décisions, le pouvoir, la gestion, les opérations, qui vont tout avoir transmis ça à la génération. T'sais. Donc, il demeure encore des enjeux. Fait que, dans le fond, nos boomers, c'est les gens qui sont nés là, entre 1946 et 64. Puis, qu'est-ce qui les distingue? C'est qu'eux sont arrivés, dans le fond, dans une ère où il y avait beaucoup de prospérité économique. Ça a eu comme impact que les boomers se sont beaucoup définis par le travail. Ils ont développé, c'est cette génération-là qui a développé une obsession pour le travail. Puis là, tu sais, si on se replace au niveau historique, là, c'est que l'ère économique est arrivée aussi, là. C'est que les gens ont commencé à sortir des campagnes aussi. Oui. L'industrialisation est arrivée. Le Fordisme avec le travail à la chaîne et tout ça, tu sais. Fait que ça a tout eu un impact aussi économique qui a fait en sorte que les gens ont pu commencer à avoir accès à des plus hauts statuts hiérarchique aussi. C'est que vu que l'entreprise a commencé à grossir, qu'il y a eu une augmentation des entreprises, de la croissance, ben puis, tu sais, je fais un lien avec ma notion de la semaine passée, où est-ce qu'on parlait des hommes, qu'est-ce que les hommes recherchent? Bien, ces hommes-là, à ce moment-là, recherchaient la même chose que les hommes d'aujourd'hui, c'était se définir par le travail. Fait que ça... Puis, ils ont eu, dans le fond, beaucoup de belles conditions qui leur ont permis, dans le fond, ça. Donc, c'est des gens qui sont allés chercher beaucoup de reconnaissance avec leur titre, puis avec leur possession, leur actif. Donc, c'est des gens qui, au niveau professionnel, ça avait énormément de poids. Et c'est des gens qui, au travail, maintiennent toujours le désir de travailler. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont comme attente de travailler avec des gens qui vont être aussi dévoués qu'eux. Fait qu'eux, c'est comme leur vision du travail et que tu dois, dans le fond, mettre le travail en priorité dans ta vie. C'est ce qui est le plus important. Puis ils vont s'attendre que les plus jeunes vont avoir tendance à le faire aussi. Mais on va se rendre compte que ce n'est pas nécessairement la réalité d'aujourd'hui. Non. La génération qui a suivi là, 65 à aller jusqu'à 78, là, c'est la génération X. La génération X, elle a été comme plus tranquille. Là. C'est une génération qu'il y a moins brassé, il y a eu moins de gros impacts, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de grosse polémie là, dans cette période-là. Sauf que c'est une génération où c'était, dans le fond, certains enfants des boomers, donc les boomers qui ont amélioré souvent leurs conditions financières. Donc, c'est des enfants qui ont été plus scolarisés. Okay. Les gens avaient plus de moyens, les gens étaient plus sortis un petit peu des campagnes aussi. Donc, génération X sont plus instruites que la génération d'avant. Pour eux, par contre, il y a une nouvelle notion qui rentre en ligne de compte, c'est les équipes de travail. C'est comme, bon, ben maintenant, on ne veut plus seulement qu'aller chercher comme un statut, mais on veut travailler, on avance le côté collectif, le côté de travailler en équipe puis d'être loyal les uns envers les autres. Donc, et c'est une génération là, où est-ce que les emplois ont commencé à être plus difficiles aussi dans cette période-là. Là. C'est ouais. Juste avant, dans le fond, la période difficile des années 80. Là. Donc, il y a eu plus de gens qui ont comme fait, ben, il n'y a pas d'emploi disponible pour nous autres, fait qu'on va se partir en affaires. Donc, il y a eu plus d'entrepreneurs dans cette période-là aussi. Que, c'est ça que ça explique, là, étant donné le mode de l'emploi qui était, le monde de l'emploi qui était plus restreint. La génération qui a suivi la génération X, on parle des millénaux. Donc, les millénaux, ça, François, c'est en partie nous. Parce que les millénaux, en fait, c'est la génération Y, puis c'est aussi la génération des enfants rois. Puis je te dirais que j'aurais le goût de faire une petite distinction, là, mais ça, c'est ma perception plus personnelle, mais c'est que c'est des enfants nés entre 1979 et 1994. Et selon moi, les enfants rois sont venus comme plus vers la fin des années 80. Là. Moi, je suis début 80, puis je me rends compte que ben, j'ose croire que je n'étais pas un enfant roi.
Tu es en train de te défendre, là, Mélissa, tu n'es pas un enfant roi?
Mais que...
Je le confirme.
mais même si je compare avec les autres personnes de mon âge, c'était pas quelque chose qui était très présent non. encore. C'est sûr qu'il y avait un début de ça qui a commencé, là.
Fait que, on commençait, les enfants commençaient quand même à prendre une place qui leur était pas donnée, peut-être. On l'a vu, mais on est peut-être à une petite amorce tranquille de l'enfant roi.
Et c'est que dans le fond, là, on développe la culture postmoderne à cette époque-là.
Okay.
Début des années 80, c'est la culture postmoderne, dans le fond, qui commence à être en place. Puis, c'est qu'on a commencé à faire apparaître dans les recherches, parce que là, il a commencé à avoir plus d'études scientifiques au niveau du développement des enfants, puis qu'on a commencé à questionner sur, OK, ce serait quoi le bon mode d'emploi pour élever des enfants? Et quand les scientifiques ont commencé à faire des recherches, il y a des résultats qui ont commencé à sortir au niveau des recherches, comme de quoi qu'on pouvait traumatiser un enfant et qu'on pouvait causer du tort dans leur développement. Donc, dans les années 80, est arrivée comme une nouvelle idéologie chez les parents, que les parents, dans le fond, avaient le pouvoir de venir influencer ouvertement le développement de leur enfant. Puis ça a été vraiment quelque chose de nouveau parce qu'avant, c'était comme, ben les enfants, ils mangent après les adultes, puis les enfants, il faut qu'ils respectent l'autorité. La notion de respect est très, très puissante, très, très forte, la notion de hiérarchie. Mais là, c'est comme dans les années 80, là, il a commencé à avoir des études scientifiques qui sont venues remettre ça en question. Puis ça a fait en sorte que les enfants ont commencé à avoir des parents qui se sentaient plus coupables. Donc, on a commencé à dire que, ben, il faudrait peut-être pas laisser pleurer un enfant. Du moins, pas trop longtemps, puis, tu sais, parce que là, on risque de le traumatiser. Fait qu'on a commencé à cultiver chez les enfants la culture de l'évitement.
Okay.
On a voulu commencer à les protéger, à les élever un petit peu dans une petite bulle de verre où est-ce qu'on veut pas que nos enfants vivent trop d'émotions négatives. Puis ça s'est accentué avec les années. Là. Moi, je te parle, ça a commencé dans le début des années 80, là, mais aujourd'hui, là, ça, c'est comme exponentiel. Là. C'est encore plus. Là. Fait que nos enfants d'aujourd'hui, on voudrait, dans le fond, on voudrait qu'ils évitent d'avoir de la peine, d'avoir de la déception. On voudrait pas qu'ils soient en colère. Fait qu'aussitôt qu'il y a une émotion qui est négative, ben la tendance naturelle du parent va être de trouver un distracteur, de venir répondre aux besoins de l'enfant comme rapidement. Mais ça va avoir amené des conséquences sur le moyen long terme dans le développement de nos enfants. Mais tu sais, puis là aujourd'hui, tu sais, quand on parle de génération Y, puis tantôt, tu sais, je vais parler de la génération Z, mais il ne faut pas oublier que ce sont des tendances. C'est pas parce qu'on est né dans cette période-là que ça nous représente totalement. Tu sais, quand on dit des tendances, c'est qu'il y a toujours des gens qui ça va être plus élevé, puis il va y avoir des familles chez qui ça va avoir été comme pas du tout le mode, la façon dont les enfants vont avoir été élevés, là. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, les milléniaux, c'est des gens, dans le fond, qui vont avoir une tendance à être beaucoup plus optimistes que les générations dans le passé. C'est que là, le monde de l'emploi a commencé à s'ouvrir. Tu sais, les boomers l'avaient vécu, ça, mais après ça, bon, le monde de l'emploi qui s'est restreint. Mais là, ça a commencé à revenir dans les années 80. Je te dirais pas nous autres, mais plus vers les années fin 80-90. Là, quand les jeunes commençaient à sortir de l'école, ah, là, les emplois commençaient à revenir. C'était comme plus facile d'être capable de se trouver quelque chose.
Puis est-ce que je me trompe ou ils ont pas nécessairement la même vision face à l'emploi? Tu sais, nous autres, on était peut-être les derniers, là, tu sais, ça prenait une job à temps plein, à l'année, la plus grande sécurité possible. Aujourd'hui, temps partiel, contrat,
Écoute, tu frappes en plein dans le mille, là. Les caractéristiques qui sont recherchées dans le travail vont davantage être des caractéristiques qui vont venir... Ils n'ont pas besoin d'être sécurisés. Tu sais, de sentir qu'ils ont un temps plein, qu'ils ont une permanence puis qu'ils vont avoir un salaire stable pendant toute l'année. Pour eux autres, c'est secondaire. Ils n'ont pas souffert d'instabilité.
Ouais.
Ils ont tout eu comme facile. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sente le besoin de venir sécuriser quelque chose dans le moyen long terme. Donc, ça va faire en sorte qu'au niveau du travail, ça va être beaucoup, ils vont s'attendre à ce que le milieu de l'emploi va s'adapter à eux. Puis, tu sais, c'est encore plus vrai pour la génération Z, qui est la génération à partir de 1994, les enfants nés après 95. C'est que là, on veut, parce que au début, quand là, il a commencé l'ère de « OK, on veut que le milieu de travail s'adapte à nous, à notre situation », bien là, ça a été la conciliation travail-famille. Fait que ces gens-là, quand ils sont devenus des adultes, qui ont commencé à avoir des enfants, veulent aussi avoir une vie un peu plus équilibrée, donc avoir du temps avec leurs enfants, pouvoir être impliqués, pouvoir être là pour que ce soit eux qui soient un modèle, qui ne soient pas élevés par d'autres et tout ça. Il y a eu ça, mais plus ça l'avançait, plus ça a été exponentiel au niveau de l'importance que ça a eu pour les gens. Et maintenant, ce n'est plus seulement qu'on veut avoir une conciliation travail-famille. C'est que maintenant, on veut que le milieu du travail s'adapte à quelles sont mes réalisations personnelles. Si je veux pouvoir voyager, je m'attends que le milieu de travail va s'adapter pour que je sois en télétravail, mais que ça ne m'empêchera pas de voyager.
Ouais,
fait
ouais,
que je vais vouloir que mon environnement s'adapte à moi. Contrairement à avant. Dans les générations d'avant, c'était le contraire. C'était l'individu qui s'adaptait à son environnement. Mais là, ça vient de changer toutes les perspectives là, de ce côté-là.
Puis je me trompe peut-être, là, mais dans le milieu agricole, on s'adapte bien plus souvent au travail puis aux réalités que le contraire.
Oui, oui. Puis, tu sais, quand j'ai préparé le balado d'aujourd'hui, c'est un petit peu la conclusion que je me disais, tu sais, on va y avoir des jeunes de la relève qui vont représenter certaines caractéristiques de ces générations-là, mais c'est pas tellement compatible avec l'entrepreneuriat d'une entreprise agricole. Puis c'est sûr que c'est un enjeu qui vient en sorte de venir influencer le choix pour un jeune d'aller vers le domaine agricole. Parce que tu l'as dit, il y a plein de variables sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Et que si tu n'as pas la discipline ou que tu n'as pas développé la capacité d'être capable de faire les bons choix au bon moment, puis de faire des deuils. Tu sais, il y a plusieurs psychologues qui utilisent le mot de l'autorégulation. C'est que quelle est ta tolérance à être capable de remettre quelque chose dans le temps, de remettre le plaisir. C'est comme, ben là, présentement, oui, ça serait plus fun de faire ça, mais c'est pas ma situation, je peux pas le faire tout de suite. Donc, je vais repousser le plaisir. Est-ce que je suis capable de tolérer ça? Est-ce que je suis capable de gérer une pulsion? Hey, là, ça me tenterait là, d'aller sur mon téléphone puis d'aller voir ça, mais là, je peux pas, là. Est-ce que je suis capable de ça? Est-ce que je suis capable de gérer une colère, de faire comme je me laisse pas emporter? Est-ce que je suis capable... Je cherche mon autre, là, parce qu'il y en avait trois, là, au niveau de... que je voulais te nommer, justement, au niveau de l'autorégulation, là. OK, c'est ça. Retarder le plaisir, la gestion des pulsions, puis la tolérance des frustrations, des émotions négatives.
Ouais, ouais.
Fait que c'est pour ça que ça va comme à l'encontre avec ce que je viens de te nommer dans « C'est quoi le courant postmoderne? » Le courant postmoderne est venu influencer que les gens... On a habitué les enfants à avoir des choses rapidement sans délai, pour éviter que les enfants vivent des frustrations.
T'as pas de peine.
Parce qu'on a eu peur de les briser si on leur faisait vivre des frustrations. Fait que voilà, fait que ça a eu, tu sais, tout un gros impact, là. Puis tu sais, la génération des milléniaux, c'est toute l'arrivée de la technologie aussi. Fait que l'arrivée de la technologie qui est venue faire avancer les entreprises à un pas, tu sais, à une vitesse grand V, là. Puis tu sais, la génération Z, c'est encore pire, parce que la génération Z, c'est les enfants nés après 1995 à aller à aujourd'hui. Fait qu'eux sont arrivés et tout était déjà en place. Fait que ça s'est même pas introduit pendant le cours de leur vie. C'est, ils sont arrivés, puis déjà, bébé, il avait accès à un téléphone, à une tablette, à réseaux sociaux, ouais. YouTube en ligne, OK? Tu veux écouter Pat Patrouille? Parfait, on te le met là. au moment où ça arrive. T'sais, c'est comme tu veux l'avoir là. Ah, on se connecte, on est capable de répondre aux besoins tout de suite.
C'est pas comme nous, là. Des dessins animés, c'est le samedi matin puis en arrivant de l'école.
Exactement, exactement. T'sais, notre passe-partout à 6h30 le soir, c'était comme si tu passais à Edouette puis que tu rentrais de jouer dehors plus tard un peu, ben t'sais, tu pouvais pas le réécouter. Même que ça a été l'ère des vidéos qu'on pouvait enregistrer, t'sais. C'était comme quand on était jeune, nos parents n'avaient pas tout, ça coûtait une fortune, cette affaire-là.
Arrête de nous vieillir, là.
Mais c'est ça, fait que, tu sais, ça vient influencer ça. Fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'accès à la technologie. C'est des jeunes qui ont été habitués aussi à la consommation. Fait que c'est des jeunes qui ont été très, très stimulés et les parents, parce qu'ils étaient plus, ben, et encore aujourd'hui, parce qu'ils sont plus en moyens, vont se servir, dans le fond, de consommation pour pouvoir renforcer les enfants dans leur comportement.
Puis, le marché n'est plus le même. Des Dollarama, on ne connaissait pas ça. Des Amazon, on ne connaissait pas ça. Maintenant, on est capable d'avoir des choses à n'importe quel prix, là. Fait que, tu sais, c'était quelque chose qui ne se pouvait pas avant, là.
Exactement. Fait que, tu sais, puis avant, c'était comme, ben si je reprends le mode comparatif, si tu comparais avec les autres enfants de ton âge, tu sais, c'était un peu la même chose partout. Mais, tu sais, aujourd'hui, c'est comme, ben presque si tu vas pas à l'aréna puis t'achètes pas une slush, ton enfant fait comme, ouais, mais là, pourquoi? Ouais. Lui, il en a une, puis telle maman en donne une, puis, ben non, ici, c'est non. C'est comme, quand on va à l'aréna, on n'est pas obligé d'acheter une surprise à chaque fois, tu sais. Mais les enfants sont comme, c'est rendu une attente.
Ouais.
Ils sont habitués à ça, on les a comme conditionnés à ça. Fait que c'est sûr que c'est des enfants qui, au niveau du mode de consommation, ben vont vouloir toujours un peu plus. Fait qu'on va vouloir voyager. C'est des enfants qui sont très stimulés. Ils veulent voyager, ils veulent avoir des défis. Fait qu'ils apprécient moins la routine. Fait que ça va aussi avoir tout cet impact-là au niveau du mode, du monde du travail aussi. Tu sais, c'est des enfants que quand les parents ont commencé à avoir peur de traumatiser leurs enfants, on leur a dit, là, il faut que vous expliquiez à vos enfants qu'est-ce qui se passe. Fait que là, quand vous allez lui dire non, là, vous allez lui expliquer de long en large pourquoi c'est non. Donc, c'est... là, je dis pas que c'est la chose à faire, hein? T'sais, c'est comme, je dis, c'est quoi les tendances à ce moment-là qui ont été véhiculées là, par les psychologues et tout ça. Fait que, mais ça a fait en sorte que c'est des enfants qui ont développé beaucoup de curiosité, puis qui ont développé aussi la possibilité de questionner. Plus tu donnes d'explications, plus tu ouvres une porte pour que les enfants puissent dire « Oui, mais pourquoi ça? Oui, mais pourquoi? » Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on a donné, dans le fond, du pouvoir aux enfants. Fait qu'au niveau, ça leur réduit l'écart entre l'autorité parentale et les enfants. Et on a eu plus tendance aussi à impliquer les enfants dans les décisions. Fait qu'avant, c'était les parents qui décidaient puis les enfants suivaient. Mais là, tout est arrivé dans cette ère-là. Les familles ont été moins nombreuses aussi. On a voulu, dans le fond, rendre les enfants spéciaux. On a voulu leur donner une espèce de statut parce qu'on s'est dit, ça, là, c'est bon pour l'estime de soi, là. Si notre enfant, on lui dit qu'il est bon puis qu'il est le meilleur puis que, envoie, vas-y, tu sais, t'es capable, bien, on a pensé que en ayant une attitude comme ça, qu'on allait former, dans le fond, des enfants qui allaient être forts quand ils allaient être plus vieux. Sauf que c'est pas totalement ça que ça a créé. Parce que si tu vas valoriser un enfant, puis que tu le survalorises sur quelque chose qui a pas de poids, tu sais, juste de dire à quelqu'un, « Ah, ben il est tellement beau ton dessin, puis j'en reviens pas, puis j'ai jamais vu ça, un beau dessin de même, c'est comme le meilleur dessin de la Terre entière, là. » Ben c'est comme, ben c'est parce que lui, quand il va arriver à l'école,
la réalité
là,
va le frapper un jour.
C'est ça, là. C'est que les autres enfants vont faire des beaux dessins équivalents aux siens, là. Fait que c'est pas ça qui va faire en sorte que nos enfants vont être combattants puis vont être capables de réussir une vie puis d'avoir une vie heureuse. Parce que quand il va se rendre compte qu'il n'est pas le meilleur, qu'il n'y arrivera pas, il n'aura pas la tolérance à gérer la frustration ou de sentir qu'il va avoir une valeur même si son statut ne sera pas dans le top à chaque fois. Fait qu'on vient réduire chez ces enfants-là le sentiment de compétence réelle ou la capacité d'être capable de se voir bon, même s'il n'est pas le meilleur dans quelque chose. Fait qu'on a comme fait qu'on a arrêté de valoriser l'effort. C'est que ça a eu comme impact que les enfants se sont retrouvés avec des statuts comme de quoi qui sont bons, sont des champions, mais ils n'ont pas eu besoin de travailler presque. Ils n'ont pas travaillé fort, du moins, pour être capables d'y avoir accès. Parce qu'on a voulu faire une culture de champion, parce que tout le monde, on s'était fait dire que, ben dites à vos enfants qu'ils sont beaux puis qu'ils sont donc fins, puis ça va faire des adultes qui vont être pleins de capacités. mais c'est de la fausse confiance. Fait que, écoute, ça ressemble à ça, là. Okay. Fait que,
on a pressé le portrait de...
Ben oui, tu sais, je te dirais. Puis la génération Z qui a suivi, ben, qui a suivi la génération Y, c'est les mêmes caractéristiques, mais encore plus amplifiées. Puis parce que ces enfants-là, la culture de l'évitement a été encore de plus en plus utilisée. Puis ça l'a fait en sorte qu'avec l'arrivée des médias sociaux, ça a fait en sorte que ces enfants-là vont avoir combiné beaucoup de temps d'écran d'utilisation de médias sociaux, qui est un des plus grands prédicteurs de détresse et de dépression chez les jeunes. Fait que faire en sorte de limiter les vraies interactions physiques, de dire oui à un enfant, de le faire sentir spécial, puis en même temps combine l'utilisation de YouTube, l'utilisation d'avoir un renforcement à chaque fois qu'il fait quelque chose de beau, tiens, une récompense, ou même il n'y a même pas besoin d'avoir fait un moindre effort, tiens, je t'ai acheté une surprise. Donc, ça fait en sorte que ça a créé des enfants qui vont avoir, beaucoup plus d'anxiété, beaucoup moins outillés quand ils arrivent comme à l'âge adulte. Fait que ça, c'est notre génération, là, notre génération Z, là, qu'on a présentement, okay. nos plus jeunes.
C'est bon. Fait que dans tout ça...
Oui. Dans tout ça...
Comment ça marche quand on parle de relève agricole? Comment on mélange toutes ces générations-là? Parce que là, on est rendu qu'on les mélange toutes, là.
Ben, c'est
parce qu'il y a encore des baby-boomers sur le marché du travail, encore des baby-boomers propriétaires d'entreprises agricoles.
Ouais.
Il y a des enfants issus de la génération Z, la dernière, c'est la Z? Mm-hmm.
Oui, c'est la Z.
Qui arrive sur le marché du travail.
Ouais. Exactement. Elle s'appelle aussi la iGen pour toute l'ère des iPhones et tout ça. Là, fait que
puis là, c'est tasse-toi, boomer, on arrive.
Bien, tu sais, de un, j'ai ressorti l'âge moyenne là, de notre élève agricole. Puis l'âge moyenne qui a été relevé au recensement 2021, c'était 33 ans. Fait que 33 ans, ça veut dire que c'est nos jeunes de génération Y, mais les Z vont s'en venir.
Okay.
Parce que faut pas oublier que les Z, c'est des jeunes qui vont avoir, ça va être plus sur le tard qu'ils vont prendre des responsabilités aussi. Ils ont tellement été couvés, surprotégés par les parents que la prise de responsabilité va avoir tendance à venir plus tard.
Okay.
Fait que avec le monde agricole, ce que je me rends compte, c'est que les caractéristiques qu'il y a là, si les enfants sont trop typiques de leur ère, qui sont trop typiques de leur génération, ça ne fera pas une bonne relève agricole. Puis ça, je te dirais que c'est un enjeu qui est quand même vraiment important. Parce que, je te donne l'exemple, OK?
Oui.
Si on a des parents qui veulent avoir une relève, puis que le jeune y est rendu à 24 années, puis que il se lève pas le matin pour aller traire les vaches, puis que c'est le parent qu'il faut qu'il y aille dans le fond et dire « Hey, là, c'est le temps de te lever », puis il faut que, tu sais, que le parent pousse comme quand c'est un enfant de 8 ans, là. Bien, cet adulte-là, même s'il est rendu adulte, il n'est pas prêt pour être une bonne relève agricole. Puis on va le voir, tu sais. On va le voir parce qu'il y en a qui font comme « Oui, mais il est intéressé, il aime ça, il a la passion. » Oui, mais c'est parce que c'est plus juste, il sera plus employé un jour, là.
Ouais, c'est ça.
Il va être un entrepreneur.
Puis tu me fais, je te devance peut-être, oui. Là, puis j'avais pris la note pour ça. On s'entend que de relève agricole, on parle souvent de famille. Puis on souhaite, les propriétaires vont souhaiter que leur enfant s'intéresse puis qu'il devienne la relève agricole. Oui. Fait que là, si on parle de parents qui ont toujours protégé ou surprotégé leur enfant, ils vont le faire aussi dans l'entreprise, comme tu dis. Ils vont dire « Ah, il s'est couché tard hier, on va le laisser dormir un peu, je vais tirer les vaches à sa place.
Oui. »
Puis ils vont pallier.
On a un petit problème technique.
Ils vont pallier longtemps, jusqu'à un moment donné où ce que là, ça va être la santé qui va les dicter de devoir quitter, puis ils vont laisser l'enfant dans le trouble.
Bien, c'est parce que ce que ça va faire, là, c'est que c'est un des... Au niveau économique, là, présentement, au niveau économique, il y a plus de faillites qu'il y en avait avant.
Généralement, là, pas juste en milieu agricole.
Dans le monde économique.
Okay.
Puis c'est une des raisons qui explique, parce que les jeunes qui reprennent n'ont pas nécessairement les caractéristiques pour être des bons leaders, pour être des bons chefs d'entreprise. Parce que pour être un bon chef d'entreprise, un bon leader, puis encore plus en agricole, il faut que tu sois capable de tolérer des délais, il faut que tu sois capable de gérer des frustrations, il faut que tu sois capable de prioriser ton temps, il faut que tu sois capable le soir de dire « OK, ça serait bien le fun là, de réécouter une émission de plus là, sur Netflix, là ». mais c'est comme demain matin, il faut que je me lève à 5 heures, j'ai des vaches là. Si tu tiens ça jusqu'à 2-3 heures du matin, tu vas impacter ton sommeil, puis ça va avoir un impact sur ton niveau d'énergie, sur ton niveau d'engagement, sur ton rendement au travail, puis ça donnera pas des bons résultats en termes d'entreprise. Fait que ça va se refléter. Fait qu'on se retrouve présentement avec des jeunes qui vont avoir ce portrait-là, mais qui vont quand même devenir des chefs d'entreprise, puis qui vont avoir une tendance à la consommation, puis de reporter la prise de responsabilité plus tard. C'est comme, ben là, j'en ai besoin, là, je le veux, là, je l'achète. Ouais, mais t'as-tu fait un montage financier? T'as-tu, jusqu'où, dans le fond, tu t'es préparé pour aller vers ça? T'aurais été mieux de travailler à économiser avant pour attendre avant d'avoir accès, exemple, à un nouveau tracteur. Non, je le veux tout de suite, l'autre est brisé, puis là, on se trouve mille et une raisons. Mais c'est ça, ça fait en sorte de mettre à risque plusieurs entreprises familiales. Puis tu sais, puis en même temps, là, je vais pas être défaitiste puis mettre ça sur la responsabilité des jeunes, parce que c'est les parents qui ont inculqué aussi ça, tu sais, dans la façon qu'ils ont éduqué. Oui, tout le monde, on a une petite trame de fond, tu sais, on le sait, on a toutes nos traits de personnalité qui vont venir influencer nos comportements, mais on a une responsabilité comme parents aussi pour voir comment on va faire pour développer nos enfants, pour leur donner les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent réussir leur vie. Puis là-dedans, tu sais, les meilleures choses, c'est déjà à la base, bien, quand vos enfants sont jeunes, dites-leur non. Puis quand c'est un non, c'est non, on ne change pas d'idée. Puis c'est plus favorable de dire plus souvent non que de dire plus souvent oui. C'est plus dur comme parent, tu sais, c'est comme, oui, on va avoir à gérer des crises, puis on va avoir à gérer de la déception, de la colère chez nos enfants, mais plus nos enfants vont avoir développé la tolérance à la frustration, à la déception, quand ils sont jeunes pour des petites pacotilles, là, ben c'est comme, là, on va les rendre plus forts pour quand ils vont devenir plus vieux. Fait que de retarder le plaisir et de souligner l'effort à long terme, qui va donner un résultat. Puis c'est la même chose en entreprise agricole. Entreprise agricole, présentement, dans leur élève agricole, il y a beaucoup de démarrages de nouvelles entreprises. Puis tu sais, une bonne nouvelle, dans le recensement, c'est une des premières fois dans le recensement où, au Québec, il y a eu une augmentation des entreprises agricoles dans la relève. Fait qu'il y a un 2 % de plus comparé aux dernières stats, là, dans le fond, de 2016. C'est pas comme ça dans tout le Canada, mais au niveau du Québec, c'est une particularité. Fait que c'est une bonne chose. C'est pas parce qu'il y a plus de relèves agricoles qui vont avoir fait un transfert. Le transfert de ferme va avoir tendance à diminuer. Il est quand même en dominance, là, c'est à peu près 56 % là. Ben, pas à peu près, c'est assez précis, hein? Je me souviens du chiffre précis. C'est 56 % qui étaient des transferts de fermes qui étaient déjà existantes, apparentées. Après ça, il va y avoir un petit pourcentage, environ 10 % qui sont reliés, dans le fond, à des transferts non apparentés d'entreprises déjà existantes. Puis le reste, c'est la création de nouvelles entreprises. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose comme de vraiment intéressant, là. À faire ressortir, là. Fait que ça, c'est une nouvelle réalité que les gens ont à composer aussi. Les nouveaux, puis tu sais, puis moi, là, je vois vraiment une distinction entre, tu sais, ce que je te nomme, là, François, entre qu'est-ce que les gens, comment l'influence de notre génération va avoir une influence sur nos comportements. Bien, les gens qui veulent partir, démarrer une nouvelle entreprise ont besoin d'être très outillés pour pouvoir être capable de démarrer quelque chose. Puis ils ne peuvent pas s'en remettre sur que l'ouvrage va être fait pour quelqu'un d'autre. Si tu veux démarrer ta propre entreprise, tu n'as pas le choix. Il faut que tu travailles puis tu y mettes les efforts.
Puis tu ne calcules pas les heures, là.
Exactement, exactement. Tandis que quand c'est un transfert, le risque, dans le fond, que le jeune ne voit pas tout le travail qui a été fait avant puis qu'il soit aussi dévoué pour le faire, qu'on ait peut-être des jeunes qui représentent plus de caractéristiques au niveau des générations Y puis Z qu'on a parlé tantôt, c'est peut-être un petit peu plus vrai. Parce que les nouvelles entreprises ne sont pas nécessairement influencées par la génération d'avant, parce que leur famille n'était pas nécessairement des gens qui étaient en entreprise agricole. Certains, oui, mais certains, non. Puis, quand ils repartent une nouvelle entreprise, souvent, ça va être quelque chose de différent de ce que les parents avaient comme avant, tu sais.
OK. Mmh.
Fait que, tu sais, au niveau, pour revenir avec nos caractéristiques de nos producteurs présentement, de notre transfert, mais qui sont notre relève. Une autre caractéristique que moi, que je trouvais vraiment comme intéressante, c'est que là-dedans, là, il y a à peu près la moitié, là, il y a 44 % des relèves agricoles qui ont un autre travail à l'extérieur. Parce que justement, la réalité change. La réalité change parce que quand tu es un entrepreneur qui démarre une nouvelle entreprise, le temps de te monter dans le fond suffisamment d'actifs pour avoir un petit fonds de roulement, d'être capable de te prélever un salaire dans ton entreprise, tu vas vivre une période de consolidation. Fait que tu vas être très instable au début au niveau dans le fond financier pour être capable de payer ce que tu as payé. Fait que oui, tu vas avoir accès à des prêts, tu peux aller chercher quelques subventions, mais il reste que dans le courant, c'est très, très rare que des gens vont être capables tout de suite de rentabiliser dans le court terme. Donc, ça demande à notre relève d'être très ingénieux et d'être très dévoué. Fait que, tu sais, moi, j'ai été surprise quand j'ai vu ça, là, que 44% là, avaient un travail à l'extérieur.
C'est un sur
deux. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est encore, comme je te disais, ceux qui sont des transferts de fermes déjà existantes, c'est moindre parce qu'ils vont travailler dans l'entreprise, fait qu'ils ne sortiront pas. Mais ceux qui vont travailler à l'extérieur vont aussi faire des emplois qui vont être reliés, qui vont être connexes là, au domaine agricole, okay, la majorité du temps. Puis une autre chose, c'est que la présence des femmes dans le milieu du travail. Fait qu'au niveau de la relève agricole, c'est aussi vrai. Fait que c'est maintenant 1/3% de la relève qui sont des femmes. Fait que ça, cette tendance-là a toujours tendance aussi là, à augmenter là, avec les années.
Oui, en effet. Hein?
Oui. Fait que je te dirais là, que, tu sais, on pourrait ressortir encore plein de petites stats et tout ça, là, mais c'est comme, ça résume à peu près que notre relève agricole, ben moi, j'en suis vraiment fière. Parce que quand je lis les caractéristiques des générations Y puis Z, c'est pas nécessairement des caractéristiques que j'ai le goût, par exemple, que mes enfants développent. Parce que c'est pas la culture du courage puis la culture de persévérance puis de tolérer des émotions négatives pour faire en sorte qu'on va être plus fort. C'est comme on est plus dans le contraire, dans l'évitement. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est que nos enfants qui sont élevés dans le monde agricole, généralement, je trouve qu'on réussit à faire bien la part des choses. Parce que on est justement dans des modes de vie qui sont tellement contraignant, qu'on doit, comme tu le disais bien tantôt, nous s'adapter à notre mode de vie, à la condition météorologique, au travail qui doit être fait, qu'on transpose ça à nos enfants, puis on fait en sorte de mieux les équiper, selon moi, pour la vie future, pour qu'ils réussissent à vivre une vie, dans le fond, heureuse, en santé, puis qu'ils réussissent à atteindre leur but important, même si c'est pas l'agricole. Fait que, tu sais, c'est comme... Là-dessus, là, je trouve que dans le monde agricole, là, on est quand même pas mal bon pour
tu pourrais dire
transmettre
que le domaine agricole, c'est une bonne école.
Oui, oui.
Puis c'est pas nécessairement que les jeunes prennent la relève d'une l'entreprise agricole, mais ça les prépare quand même aussi à d'autres domaines, là. C'est ça que tu nous dis.
Oui, exactement. Exactement. Fait qu'on vient forger des personnalités qui vont être plus fortes.
Résilientes.
Plus résilientes, exactement. Fait qu'ils vont être mieux capables de s'adapter, passer au travers le temps, passer au travers les épreuves de la vie, parce que justement, on va leur avoir démontré comme école que l'effort, tu sais, la majorité des gens qu'on a des entreprises agricoles, nos enfants sont impliqués sur la ferme. Tu sais, gars, moi, aujourd'hui, c'est mercredi, même que les enfants y arrivent de l'école aujourd'hui, toute la gang, ils le savent. Mon employé, il est en congé le mercredi. C'est toujours comme ça. Fait que le mercredi, tout le monde, on s'en va à l'étable. Des fois, ça serait bien moins compliqué pour moi de faire comme, OK, ben je vais y aller tout seul, comme ça, j'aurais pas besoin de gérer, de, OK, habillez-vous, c'est l'heure de partir.
D'attendre.
Puis que là, oui, mais là, moi, je suis pas prêt, puis là, hein, ça me tente pas. Puis de gérer des crises, puis là, d'arriver au travail, puis là, de gérer des conflits, parce que là, ça lui tente pas de faire ça, puis que là, ça s'obstine sur qui fait quoi. Puis là, c'est pas juste, puis là, lui, il en a fait plus. Puis, ben non, il en a fait moins, au contraire. Il en a fait moins, puis c'est tout le temps moi qui fais ça, puis... Mais en même temps, c'est pas ça que je veux léguer à mes enfants. Puis ça commence jeune, ça commence, tu sais, dès qu'ils sont capables de prendre des responsabilités. Puis c'est démontré dans la littérature que pour développer l'éthique de travail, avoir des adultes qui vont trouver, dans le fond, que le travail, c'est important, puis qui vont être capables de répondre aux attentes d'un employeur, d'un travail plus tard, une des conditions gagnantes, c'est d'avoir donné des tâches et des responsabilités à nos enfants alors qu'ils sont jeunes.
Oui, puis... Alors, place-moi si je me trompe, là. Je vais peut-être sur un terrain un peu glissant, là, mais là, c'est le dernier épisode, je me le permets, là. Non, c'est pas vrai, c'est pas si pire que ça. Mais, puis tu sais, on a... le chemin de la relève, ben pas le chemin de la relève, mais reprendre l'entreprise de ses parents, ça peut être quand même quelque chose de facile. dans le sens que le rêve des parents, c'est que leur enfant prenne la relève. L'enfant voit, bon, ça va être facile, tu sais, genre, pas besoin d'aller 4 ans à l'université, pas besoin, même que j'aille finir mon secondaire, je m'en vais sur la ferme, je reprends ça, puis ça va être facile, je vais faire comme mes parents ont fait. Fait que ça peut être une espèce de piège doré, si on veut, là.
Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais heureusement, je pense que c'est un faible pourcentage qui, okay, est, mettons, qui représente les situations que tu viens d'énoncer.
Bien, puis on a de plus en plus de préparation. Tu sais, il y a des groupes conseils, il y a des conseillers en relève, puis les fermes sont déjà accompagnées. Fait que quand on parle de relève, eux connaissent aussi ces stéréotypes-là, fait qu'ils vont essayer de les contrer. Là.
Ben exactement. Puis maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que les jeunes d'aujourd'hui qui sont la relève agricole, la majorité vont avoir des études postsecondaires.
Okay.
Fait qu'ils vont déjà arriver avec un plus haut niveau de scolarité que des générations passées, où est-ce que ce que tu dis pouvait être vrai. Maintenant, ils vont quand même aller chercher tout cet aspect-là. Puis ils vont aussi utiliser plus les ressources, parce que c'est sûr que quand tu vas à l'école, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu éveilles à la curiosité. Oui. T'éveilles à la volonté d'apprendre, de savoir des nouvelles choses, puis t'es influencé par des nouvelles valeurs aussi. Fait que ça fait en sorte que les jeunes, étant donné qu'ils sont aussi plus scolarisés, puis que les parents comprennent aussi le plus-value d'aller faire, dans le fond, former des enfants. Fait que les jeunes qui ressortent, dans le fond, de l'école, vont avoir tendance, ils vont tous avoir généralement un plan d'affaires. Ça va être, ils vont plus utiliser les ressources en général. C'est des gens qui vont trouver des alternatives aussi. Tu sais, tantôt, quand je parlais des générations qui sont très, très ouvertes sur le monde, qui veulent voyager et tout ça, mais cette caractéristique-là, qui est l'ouverture, va aussi faire en sorte que ces jeunes-là vont avoir beaucoup d'idées pour trouver une façon de répondre à leurs rêves. Ça veut dire que, tu sais, avant, pour être un agriculteur dans le futur, il fallait quasiment que tu reprennes la relève. Mais maintenant, le portrait a changé. C'est que là, il y a d'autres stratégies qui sont utilisées. Bien, est-ce que je pourrais louer un emplacement qui ne m'appartiendrait pas? Puis même si c'est du moyen-long terme, que je pourrais être un locataire à long terme, puis louer une bâtisse ou louer un lopin de terre, fait que les gens vont avoir des nouvelles ressources. Fait que, tu sais, ça, il va y avoir là-dedans aussi toute l'utilisation des services conseils. Tu sais, ils vont utiliser des comptables, des fiscalistes, des conseillers en gestion, des conseillers techniques, tous les services financiers aussi qui vont entourer tout ça, parce que, bon, il y a toujours de l'argent qui est rattaché à tout ça. Puis, tu sais, c'est ça. Puis au niveau des ressources, bien, ils vont plus utiliser aussi, ils vont être membres des CUMA, puis ils vont avoir des espèces de plans d'intégration aussi. Là.
Tu me rassures, l'expertise autour du domaine agricole est présente, améliorée, augmentée.
Oui. Oui.
V'là 50 ans, ce rôle-là se faisait par les familles. Les familles étaient plus nombreuses, mm-hmm, les voisins étaient plus proches, tout le monde se parlait. Là, on a abandonné ça, mais au moins, il y a une expertise qui s'est installée autour, qui peut conseiller, qui peut... diriger autant les propriétaires que les aspirants. Là.
Oui, oui, exactement.
Fait que les jeunes, okay, tu me réconfortes. Fait que les jeunes ne s'embarquent pas les yeux fermés, dire « je vais faire comme mes parents, ça va être super facile, bonjour ».
Bien, c'est que la notion de temps vient influencer aussi. Parce qu'avant, les jeunes prenaient une relève, ils étaient beaucoup plus jeunes quand ils prenaient la relève. Là, la moyenne d'âge est 33 ans. Puis dans les statistiques, ce qui ressort, c'est qu'ils ont posé la question aux jeunes de savoir à quel âge est-ce que tu as pensé que ça pourrait être ça ton projet d'avenir. Puis les jeunes qui viennent du milieu agricole, c'est à 18 ans la moyenne d'âge qui ont commencé à y penser. Ouh. Fait que, tu sais, on est quand même rendu sur... Tu sais, on n'est pas au secondaire là, de dire « Ah, moi, j'ai 14-15 ans, là, puis déjà, je le sais que je veux prendre la relève de la ferme. » Non, les jeunes ont besoin de plus de temps. Puis, rendus à 18 ans, ils ont cette idée-là, mais ils vont être propriétaires juste à l'âge de 33 ans quand même, okay, tu comprends?
Ouais, ouais,
fait qu'il va y avoir toute cette période-là aussi d'accompagnement là, qui va être sur plusieurs années. Où est-ce qu'ils vont faire leurs preuves aussi, tu sais?
Puis, ils vont acquérir une certaine maturité.
Exactement,
aussi,
exactement. Puis, tu sais, puis les jeunes qui sont pas sur des fermes agricoles qui ne viennent pas du milieu agricole, bien, eux autres, la voie de l'agriculture, c'est le désir de travailler en agriculture, ils commencent à y penser vers l'âge de 21 ans. Fait que souvent, ça va être des individus qui vont avoir essayé autre chose, qui vont avoir tenté, expérimenté le milieu du travail, puis que l'amour de la nature, de travailler de ses mains, qui va ressortir, puis là, il va émerger dans le fond quelque chose de nouveau. Mais encore là, c'est tellement de préparation, de montage financier, de plusieurs ressources à mobiliser, que ils vont le réaliser souvent juste dans la trentaine de partir leur propre entreprise. Là. Ouais.
OK.
Ouais, ça ressemble à peu près à ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, écoute, on aurait pu continuer là, la discussion encore longtemps, hein, parce clair, que là, tu sais, on aurait encore du jus pour reparler de justement comment on gère les conflits de génération, les enjeux de communication et tout ça. Puis là-dessus, ben, je te dirais, on peut se référer au module qu'on a déjà vu au niveau de la communication, parce que c'est les grandes lignes qui ressortent.
Ah, oh, c'est bon, ça, j'aime ça, le fait qu'on...
Oui, hein, qu'on fasse des liens, hein, parce que, tu sais, sur la communication, ça va rester la même, tu sais, c'est qu'il doit y avoir de la flexibilité, c'est qu'on doit avoir, on doit avoir une ouverture envers l'autre, puis premièrement, avoir la volonté de comprendre l'autre avant d'avoir la volonté de se faire comprendre.
Oui, oui, oui. Ouais.
Fait que, tu sais, si entre les générations qu'on est capable d'aller sur ce terrain, là, puis d'avoir des discussions franches, puis qu'on sent que l'autre a compris le sens de ce qu'on voulait dire, bien, on va être en mesure de faire des meilleurs compromis pour être capable de réunir les valeurs. Tu sais, si chacun fait son petit bout de chemin, bien, on va réussir à avoir quelque chose qui va pouvoir être accommodant, puis que les deux générations, que ce soit les cédants ou la relève, bien, qui vont trouver une façon de continuer de sentir que l'entreprise évolue, puis qu'elle évolue et qu'ils sentent qu'ils sont à une bonne place pour contribuer, qu'ils vont sentir qu'ils vont avoir quelque chose à apporter là-dedans aussi. Là.
C'est bon, j'aime le pont. Fait que, tu sais, je pense que dans un processus de relève, il y aurait plusieurs épisodes qui pourraient être réécoutés puis réalisés.
Oui.
Puis on le répète souvent, on l'a répété souvent au cours des différents balados, de ne pas hésiter, de consulter les professionnels, les ressources qui sont autour de nous. Puis encore plus quand on parle peut-être de relève, parce qu'il y en a encore beaucoup. Puis c'est là que, on l'a mentionné rapidement, là, on a les groupes conseils, les fiscalistes, les banquiers. C'est de voir, puis de ne pas hésiter pour pas se lancer dans le vide.
Ouais.
Autant pour le propriétaire que pour l'aspirant. Ouais. C'est quand on amorce, on sait où est-ce qu'on s'en va, on se fixe des objectifs, on les corrige en cours de route s'il y a des changements. Fait qu'il y a moins de surprises, moins de découragement, moins de...
Puis moi, j'ajouterais que dans les plans de transition ou dans les plans de transfert, j'invite les gens à poser des plans d'action sur le niveau relationnel aussi.
Ah ouais.
Quelle structure on va se donner pour faire en sorte de gérer nos différends, de gérer les conflits? Puis tu sais...
Papa, là, qui gère l'entreprise depuis 50 ans, comment il va...
Tu sais, François, c'est une des clés pour faire en sorte que l'entreprise va être capable de passer le flambeau puis que le jeune se découragera pas. Puis que le parent va sentir la volonté de continuer d'être impliqué aussi, parce que ça peut être d'un sens ou dans l'autre. Si le jeune arrive qui veut tout changer puis que le parent se sent totalement discrédité, ça va créer des flamèches. Puis le contraire, si le parent continue à tout vouloir gérer puis que le jeune sent qu'il n'y a aucune autonomie, qu'il est traité comme un employé, il va le toffer un peu au début, mais après 10 ans, à un moment donné, il va se tanner. Puis des fois, c'est après 20 ans qu'ils ont encore des statuts comme ça. Fait que ça fait pas des entreprises qui vont prospérer puis qui vont demeurer viable dans le long terme.
Puis il y a un double défi, parce que dans une relève apparentée, il y a une relation de parents aussi. Là. Fait que en plus de l'emmener à tous les jours dans une décision. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, travailler pour ton père les fins de semaine pendant que tu vas à l'école, c'est une chose, mais devenir actionnaire, avoir à prendre des décisions sur le futur, avoir un petit choc d'idées, là, dire non, c'est pas comme ça qu'on va le faire, pourquoi, puis de... Il y a des, je pense qu'on va, on va avoir un autre épisode.
Puis tu sais, juste en finissant, je veux juste donner l'exemple qu'il y a des entreprises qui ont commencé à mettre des genres de structures, puis j'en ai accompagné, là, j'ai accompagné quelques firmes là, dans la dernière année, que justement, eux se sont dit, nous autres, une fois par mois, on veut s'asseoir avec un intervenant externe. Là, tu sais, là, c'était moi comme travailleuse sociale, mais ça peut être une travailleuse de rang, ça peut être quelqu'un de n'importe quelle organisation. Mais quand on jase de, OK, c'est quoi que moi, mes irritants, là, présentement, dans ce qu'on vit, là? Puis là, on vient ajuster ça, puis ça fait toute une différence parce qu'on travaille en amont. Au lieu que les difficultés prennent de l'ampleur, puis que ça devienne quelque chose qui est invivable, puis que là, qu'il y ait des crises, puis des situations, dans le fond, qui éclatent, bien, c'est qu'on vient comme réajuster des choses quand il commence à y avoir un inconfort. Fait qu'on rouvre des sujets, on réajuste des choses. Puis quand on s'entretient comme ça à chaque mois, bien, c'est comme, on le sait qu'on va avoir un espace pour régler des affaires aussi. Fait que c'est ben ça, là, j'ai pas aimé ça quand c'est passé telle affaire, mais je sais que je vais avoir un bon espace. Puis quand les gens arrivent, ils sont déjà disposés pour pouvoir discuter parce qu'ils savent que ça va être dans la bienveillance puis qu'on va être là pour se nommer les bonnes affaires. Fait que d'aller s'entourer là, pour régler, là, ben juste entretenir dans le fond nos relations, puis puis gérer nos trucs au quotidien. Là. C'est vraiment une bonne stratégie là, d'affaires à développer.
Mm. Bon, l'inévitable, on ne voulait pas en arriver là, mais on arrive au mot de la fin.
Bien sûr.
Les 12 épisodes. Je ne sais pas quoi dire.
Ben écoute, ben moi, je pense que le mot de la fin, c'est lâchez pas les producteurs.
Ouais.
Écoutez, vous travaillez, vous représentez 1% de la population. Puis vous faites un des métiers les plus importants qui permet de nourrir l'ensemble de la population. Fait que c'est un métier qui se doit d'être valorisé, puis que les producteurs, que vous sentiez à quel point vous êtes important dans la chaîne humaine, puis que votre contribution, sans vous autres, il y aurait énormément de gens qui souffriraient sur la Terre.
Oui.
Fait que, mais pour ça, on a besoin d'avoir des producteurs en santé.
C'est ça. J'aime ton point de dire que c'est un métier important. Ouais. L'agriculteur est important, mais il faut aussi que le producteur, la productrice le sente, puis qu'il mette une importance à sa santé, autant physique que psychologique. Là.
Exactement.
On le répète, on l'a dit, il y a de plus en plus de ressources, on est chanceux, plus on a accès à des ressources qu'on ne voyait pas là, 30, 40, 50 ans.
Mm-hmm.
De ne pas hésiter.
Oui. Oui.
D'aller les chercher, ces ressources-là.
Exactement. Puis comme on a dit dans le dernier balado, ben on a maintenant une nouvelle travailleuse de rang, dans le fond, dans la région. Donc, tu sais, puis même les services étaient quand même accessibles, même s'il n'y en avait pas une là, pendant un petit bout dans la région. Fait que, tu sais, on a plein de ressources. Il y a le CLSC, il y a les centres pour hommes qui sont là aussi pour intervenir plus au niveau masculin. Mais, tu sais, sinon, vous faites, dans le fond, le 811, vous demandez à parler à un travailleur social, puis c'est le réseau qui va vous prendre en charge. Puis sinon, tu sais, il y a toutes les infrastructures aussi privées là, qui existent pour aider
c'est surtout
les producteurs.
De ne pas hésiter.
Ouais.
On vous veut en santé.
Exactement.
Fait que Mélissa, ben, je te remercie encore énormément. Je pense que j'ai déjà hâte de réécouter parce que j'ai pris plein de notes. Puis j'arrivais, comme je te disais, j'arrivais chez nous. Puis là, je disais à ma blonde ou à mes enfants, vous écouterez cette émission?
Oui.
On va écouter cette émission. Là. Fait que j'espère que les gens vont l'apprécier autant qu'on l'a apprécié. Moi, j'ai énormément apprécié travailler avec toi.
Mm.
Ça a vraiment été un grand plaisir.
Mm.
J'espère qu'on va pouvoir
merci,
se reprendre.
Puis moi, pareillement. Fait que ça va être sûrement qu'il va y avoir des suites.
Souhaitons-le.
Effectivement.
Merci, Mélissa.
Bye.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télé-Duo du Lac.